Merci Thiago. Bonjour à tous. On a beaucoup de joie d'être avec vous ici, dans cette église qu'on connaît quand même bien depuis longtemps. Et beaucoup de joie à partager ce culte ce matin avec vous. Alors je voudrais commencer en vous transmettant les salutations de la Fédération Baptiste, puisque actuellement je ne suis plus en poste sur une église locale, mais permanent au niveau du siège de la Fédération, au niveau des départements formation, développement et communication. Et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs que Thiago nous a invités ce week-end. Et je voudrais vraiment vous saluer, en particulier de la part de toute l'équipe du siège, de Marc Dereux, le secrétaire général, de Thierry Auguste, le président, et puis de tous ceux qui viennent travailler régulièrement au siège. Et au travers de cela, c'est aussi l'occasion de penser, de se rappeler que nous sommes une grande famille et que l'église de Biscarros, même si elle est un petit peu isolée à l'ouest de la France, là dans un endroit où il n'y a pas énormément d'autres communautés autour, eh bien fait partie de cette famille et que nous sommes tous unis. Ce matin, en particulier d'ailleurs, c'est le dimanche de la mission au niveau de la Fédération Baptiste, et donc dans quasiment toutes les églises de notre fédération, eh bien cette idée de la mission est là, présente. On pense à nos missionnaires qui sont sur des terrains étrangers, au Cameroun, en Thaïlande, à Madagascar. On a actuellement 3 couples de missionnaires qui sont comme cela partis ailleurs. Et puis vous avez la chance d'en avoir qui sont venus d'ailleurs et qui sont là, ici, avec Thiago et Diane. Et voilà, c'est ça le corps de Christ, c'est ça l'Église aussi. Parler de la mission, c'est aussi penser que nous sommes tous des missionnaires, finalement. Nous sommes tous appelés aussi à une mission, celle d'être ces témoins de la bonne nouvelle, partout où nous sommes. Et que le champ missionnaire, il est parfois loin, mais il est aussi tout près, il est là où le Seigneur nous place. Ce matin, c'est un peu de cela, d'une certaine façon, que j'aimerais vous parler. Alors, si tu peux lancer le PowerPoint. Au travers d'une histoire qui va nous transporter dans la nature. Vous aimez la nature ? Ouais. Alors moi je raffole de la nature. Alors en ce moment on est plus à Paris qu'au bord d'une ferme avec des paysans, à observer des plantes. C'est plutôt les immeubles. Mais encore dans le coin où on loge quand on est sur Paris, ça va. Il y a un petit peu de verdure autour. Et puis il y a la Seine pas loin. Mais c'est quand même pas tout à fait pareil. Voilà. Jésus était un véritable adepte aussi de la nature, il me semble en tout cas, parce qu'il savait l'utiliser pour dire des choses importantes. Et vous allez voir que ce matin, c'est le cas avec un texte que j'aimerais vous proposer d'écouter. Je vais vous proposer de l'écouter, pas de le lire. Vous pourrez le relire tranquillement chez vous, l'étudier toute la semaine si vous le voulez. Ce matin, on va simplement intérioriser les paroles qui sont là dans ce texte, les écouter. C'est même pas moi qui vais vous les lire, et pour vous donner un petit côté un peu exotique, on va les entendre lus par quelqu'un qui a un petit accent, il me semble, du Canada, vous allez voir. Voilà. Intériorisons ces paroles pour bien les recevoir, les accueillir. Elles se trouvent dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, et ce sont les versets 26 à 34. Voilà, alors c'est dans l'observation de la nature donc, et de son fonctionnement que Jésus dirige notre regard avec ce texte, et qu'il le fait donc encore ce matin, il me semble, en réécoutant ce texte, avec un personnage qui est un classique des paraboles de Jésus. C'est quelqu'un qui revient dans différentes histoires que Jésus raconte. C'est un semeur, ou plus simplement, si l'on peut dire, un paysan, quelqu'un qui jette la semence dans la terre. Alors, pourquoi Jésus choisit ce personnage de façon assez récurrente dans ses histoires ? Eh bien, parce qu'il essaye de se faire comprendre de ceux qui sont autour de lui en leur parlant de choses qu'ils connaissent. Ça, c'est un point très important à avoir en tête. Jésus parle à des gens qui savent de quoi il parle quand il utilise ses comparaisons. Un personnage que Jésus venait d'ailleurs juste à l'instant avant d'utiliser pour parler notamment des différents terrains de réceptivité de la parole donnée. Vous savez, cette fameuse parabole où ce même semeur plante dans différents terrains. Alors on va pas parler de cette parabole parce que ça nous prendrait trop de temps et on ne l'a pas. Donc on va simplement garder en tête que juste avant, Jésus avait déjà utilisé ce même personnage pour parler de ces différents terrains. Et puis maintenant, donc, l'histoire continue et finalement, avec ces deux histoires, ces deux comparaisons, Jésus cherche à nous faire comprendre ce qu'est le royaume de Dieu. Alors le royaume de Dieu, c'est un concept, si on y réfléchit un petit peu de façon plus forte, c'est un concept un peu compliqué quand même, avec une véritable dimension eschatologique. Vous voyez, même le mot est compliqué. C'est-à-dire, c'est un concept qui nous transporte vers l'après, vers plus tard, vers une fin des temps, vers une espérance que nous pouvons manifester. Mais en même temps, Jésus est en train d'expliquer que ce royaume de Dieu à venir est déjà là. Il est déjà à vivre dans l'aujourd'hui, ici et maintenant. Ce royaume de Dieu est au cœur du message du Christ. Alors, de façon assez logique, parce que Jésus l'incarne en quelque sorte, et il cherche à donner de comprendre à tous ceux qui sont prêts à ouvrir leur cœur, ouvrir leurs oreilles, que ce royaume de Dieu est là, est venu sur terre, et qu'il est à la portée de tous. Alors la première partie du texte que nous avons entendu nous révèle quelque chose d'assez intéressant, il me semble, c'est qu'il y a une combinaison efficace dont Jésus parle, une sorte de duo qui fonctionne et qu'il nous invite à vivre dans nos vies. Alors c'est un duo, puisqu'on est dans les comparaisons avec Jésus, on va en faire aussi, un duo un peu façon Starkey et Hutch. Pour ceux qui sont de cette époque-là, il y avait aussi Jonathan et Jennifer. Vous savez, c'était l'amour du risque. Avec Jésus, il y a un peu de risque souvent, mais qu'on peut aimer prendre. Justement parce que vous allez voir qu'il y a dans cette combinaison des éléments qui nous permettent de pouvoir prendre des risques. Alors j'ai cherché aussi d'autres duos. J'ai pensé à Sherlock Holmes et puis son fidèle Watson. Alors ça, c'est dans une version plus moderne de l'histoire. Et puis, puisque ce soir, puisqu'on est à Biscarros, donc pas très loin de Bordeaux, et que ce soir, il y a Bordeaux-PSG, je ne pouvais pas m'empêcher aussi de dire Neymar Mbappé. Bon, désolé pour les fans de Bordeaux, mais... Voilà, un duo qui marche, qui fonctionne, qui est efficace. C'est ce que Jésus nous présente là. Et alors même si c'est dans un registre évidemment très très différent, le résultat en tout cas est garanti par Jésus lui-même, et ça c'est plutôt pas mal. Et donc dans ce duo, le premier élément du duo s'appelle implication. Dans cette histoire, Jésus nous parle de quelqu'un qui s'implique. Ce paysan, ce semeur, remonte ses manches et il s'implique dans le travail. Si on ne gagne pas le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume qui se gagne par quoi que ce soit. Par contre, on s'y implique. Le paysan commence par semer, par jeter la semence en terre, avec en mémoire l'histoire qui précède, donc avec ses différents terrains. Donc, comme je vous l'ai dit, on passe sur ces choses-là. Alors, ce n'est pas la plus forte implication qui soit, vous allez me dire peut-être, mais c'est quand même du travail. Du travail même indispensable, une part qui lui revient forcément, c'est à lui de faire cela, c'est à lui de jeter cette semence. Et puis on va le retrouver encore dans l'action, notamment à la fin, pour la récolte, il sort la faucille, c'est la moisson, et là encore c'est du travail, ce sont des efforts, il y a une vraie implication physique qui est nécessaire de sa part. Et puis même, j'oserais dire, Jésus lui ne le dit pas. Mais je pense qu'il ne le dit pas parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, il parle à des gens qui connaissent de quoi parle Jésus. Il s'adresse à des gens qui savent exactement, qui imaginent et qui comprennent la situation. Alors Jésus ne donne pas tous les éléments, mais le paysan s'implique aussi pendant le temps d'attente entre la semence et la moisson. Il va peut-être aller s'assurer que tout fonctionne, enlever quelques mauvaises herbes en fonction de la plante. Il faudra peut-être l'arroser un petit peu davantage si le temps est un peu trop sec. Si c'était des tomates, il faudrait peut-être couper les gourmands quand ils commencent à pousser. En tout cas, moi, c'est ce qu'on m'avait dit qu'il fallait faire. Voilà, il y a du travail tout au long, finalement, plus ou moins important, mais nécessaire. L'implication est indispensable dans ce duo. Nous sommes en train d'entendre présenté par Jésus. Et puisque c'est un duo, il y a un autre élément qui arrive, et le deuxième, c'est la confiance. Jésus nous parle de confiance, une confiance à mettre justement dans le Père, dans le Créateur, celui qui fait toutes choses parfaitement, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi. En fait, ce royaume de Dieu qui nous est présenté là se vit dans la confiance, dans l'abandon à la grâce de Dieu, sans chercher à comprendre. Ben, vaut mieux d'ailleurs pas trop chercher à comprendre parce qu'on n'aura pas la solution. La grâce de Dieu, elle ne s'explique pas finalement. Il faut pouvoir s'y abandonner tout simplement. Sans que je sache parfaitement comment les choses se produisent. Et la nature nous le rappelle constamment. Ce Dieu créateur fait fonctionner tout parfaitement, alors ne t'inquiète pas, il tient le monde dans ses mains, fais-lui confiance. Alors c'est pas une confiance, comment dire, qui se décrète comme cela. C'est pas une confiance qui arrive brusquement, qui se vit comme cela soudainement. Parce que s'abandonner dans les bras de quelqu'un, c'est finalement une forme d'invitation à la découverte et à l'intimité. Ce n'est pas évoqué là, mais on peut le comprendre. En fait, le paysan, il connaît sa terre. Il connaît la terre, il sait comment ça fonctionne, même s'il ne sait pas tous les pourquoi et tous les comment les choses se produisent. Il connaît la terre. C'est un familier de la nature. Et c'est dans cette intimité-là que la confiance, que l'abandon peuvent naître. Vous savez, d'ailleurs, c'est pareil dans les relations humaines. Souvent, on dit qu'il faut faire confiance. Ben, c'est pas facile de faire confiance à l'autre. Vous savez, il y a un petit exercice qu'on fait parfois quand on travaille un petit peu à la cohésion d'une équipe. Vous savez, c'est très à la mode dans le management des teams, les team building, je crois qu'on... On dit, voilà, on fait des réunions, des rencontres avec toute une équipe dans un travail et puis on essaye de souder. Il y a un petit exercice au niveau de la confiance qu'on fait souvent, c'est qu'on demande à quelqu'un de se laisser tomber dans les bras de l'autre. Et on se rend compte que c'est assez compliqué finalement de le faire. Il y a une petite vidéo qui circule en ce moment sur Facebook, je ne sais pas si vous l'avez vue, justement d'un team building comme cela, avec le gars qui doit s'abandonner dans les bras de l'autre et puis il ferme les yeux et puis il tombe en avant. Nadiège, tu peux venir ? On va le faire. Tu veux bien ? Voilà. Ben, ça ne pose pas de problème avec Nadiège. Je savais que je pouvais lui demander. Je ne le ferai pas avec tout le monde. Parce qu'elle me connaît, que je la connais, qu'il y a de l'intimité. C'est mon épouse. On s'aime. Et on sait qu'on peut se... laisser tomber dans les bras l'un de l'autre et qu'il va être là et qu'il va retenir. Mais je suis sûr que ce ne serait pas le cas forcément avec tout le monde, avec ceux en particulier qui ne me connaissent pas du tout. On a des réactions humaines. Alors je ne le fais pas parce que la dernière fois que j'avais parlé de ça, ce n'était pas pour ce message, c'était dans un autre cadre, dans une formation. J'ai demandé à quelqu'un de le faire et il s'est laissé facilement tomber dans mes bras. Voilà, pourtant je ne le connaissais pas, comme quoi certains ont plus de facilité à manifester de la confiance que d'autres. Mais globalement, généralement, c'est pas facile de faire confiance à quelqu'un quand on ne le connaît pas. Parce que ça ne se décrète pas. Et finalement, faire confiance au Créateur, c'est une invitation à rentrer dans son intimité. C'est une invitation à mieux le connaître, à le découvrir toujours plus, afin de pouvoir manifester une véritable confiance. Finalement, je crois que Jésus est en train de nous dire que tous nous pouvons devenir ce que moi j'aime appeler des familiers de l'Éternel. Devenir un familier de l'Éternel. Moi, ça me ferait franchement plaisir si, en arrivant là-haut, le Seigneur m'accueillait comme son familier, comme quelqu'un, voilà, quelqu'un qui fait partie de sa famille, mais même, c'est plus fort, être un familier de quelqu'un, pour moi, c'est presque plus fort que ça encore. C'est pas simplement un lien qui existe et qui est établi par quelque chose, c'est un lien relationnel, c'est un lien intime, un intime de Dieu. Et puis Jésus continue à raconter des histoires. Moi, j'aime beaucoup ça. Et il enchaîne dans le même registre en faisant un zoom, non plus sur le paysan cette fois-ci, sur le semeur, mais sur la semence elle-même. Alors ceux qui me connaissent un peu savent que j'aime beaucoup le cinéma. Et c'est quelque chose qui s'est amplifié ces dernières années et qui est même devenu une vraie part de mon ministère aujourd'hui. Alors je me retrouve à intervenir dans des lieux comme des festivals, j'anime des conférences autour du cinéma et de la spiritualité, j'écris sur les films qui sortent, je fais des ciné-débats comme on dit, ou ciné-chat, on regarde un film et puis on en discute après avec le public. Alors des fois dans des églises, mais aussi dans des milieux totalement séculiers, et c'est passionnant parce que j'arrive toujours à parler de Dieu. Parce que les films ressemblent tellement aux paraboles de Jésus. Moi, j'aime dire que ce sont des paraboles modernes de qui parlent de notre société. Les réalisateurs ne font que s'inspirer de ce qu'il y a autour d'eux. De la comédie au drame, et même quand ils parlent de science-fiction, il y a toujours quasiment des thématiques qui nous ramènent à Dieu. Ou plus simplement à la vie. Mais quand je parle de la vie, moi, je parle de Dieu. Parce que je ne vois pas les choses autrement et que ça nous y ramène forcément, comme faisait Jésus. Si vous observez bien dans les paraboles que Jésus raconte, il ne parle pas de Dieu directement, mais tout le monde peut l'entendre au cœur de ces paraboles. Tout le monde peut le retrouver, tout le monde peut y puiser quelque chose qui ramène à la spiritualité. Alors, si je vous dis ça, c'est parce que je voudrais qu'on revoie un tout petit peu ce que nous dit Jésus à la façon d'un tournage de film, avec une équipe qui est là en train de filmer, comme si Jésus était simplement en train de nous raconter le scénario, comment les choses vont se filmer. Alors là, on est face à une magnifique ferme israélienne, un paysage grandiose. Et puis la caméra commence sur un plan fixe. On découvre le panorama, on voit tout ce qu'il y a autour, une vue de loin. Et puis la caméra se rapproche et elle va déclencher ce qu'on appelle un plan séquence. Vous savez ce que c'est un plan séquence ? C'est quand la caméra filme sans s'arrêter, sans coupure. Elle reste constamment en action et il n'y a pas de montage. Il y a comme ça des plans séquences qui sont... devenus des légendes presque. Bon, on ne va pas trop parler ciné, sinon on va... Et là, donc, on est dans un plan séquence. La caméra filme et continue de filmer, accompagnant le paysan dans sa semence. Donc, elle se rapproche de lui et puis elle le suit. Elle le suit sans s'arrêter. Et alors, là, on découvre un paysan un peu maladroit quand même, en se rappelant de l'histoire qui précède. Il sème à gauche, à droite, un peu partout. C'est étonnant, mais voilà, c'est comme ça. Et puis on entre dans une deuxième partie du film où les nuits se déroulent en quelques secondes. Ça, c'est génial avec le cinéma. C'est un peu comme dans les rêves. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Dans nos rêves, on passe d'un jour à un autre. On est à un endroit et puis dans la seconde qui suit, on est à un autre. Enfin, quand on arrive à se rappeler un peu de ses rêves, c'est rare chez moi, mais quand ça m'arrive, des fois, je me dis, mais punaise, j'en ai fait là des kilomètres en peu de temps. Dans les films, c'est pareil. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que les jours peuvent passer comme des secondes. On peut se le permettre. Alors là, ben, c'est ce que fait Jésus. Les jours défilent. Nuit, jour, soleil, pluie. Et puis peut-être un petit apport textuel qui apparaît, comme on le fait des fois dans le cinéma, 6 mois plus tard. Et 6 mois plus tard, on arrive au temps de la moisson. Et là, c'est l'acte 3 qui commence. la caméra se dirige juste avant que ne passe la faucille sur une plante qui surpasse toutes les autres. On la voit, on s'en rapproche, et on peut observer qu'il y a même des oiseaux qui sont tranquillement installés à l'ombre des feuillages de ces grandes feuilles. Parce qu'en fait, c'est un CNV, c'est-à-dire que c'est la plante qui va donner les graines qu'on appelle communément des graines de moutarde. Ça ressemble à ça, des graines de moutarde. Vous voyez, c'est pas très gros finalement, c'est tout petit. Et là, Jésus nous donne une leçon de chose au travers de cette histoire qui peut sembler tellement banale. Il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de choses drôles ou particulières. Ce serait plutôt un film d'auteur à la française qui raconte la vie, qui raconte des choses qu'on peut voir au quotidien et qu'un certain nombre de gens n'aiment pas parce que c'est trop proche de la réalité. Ben, Jésus était plutôt dans la catégorie film d'auteur. Et là, au travers de ça, Jésus nous raconte un truc qui est essentiel à l'existence humaine, qui est fondamental. Et peut-être que s'il faut garder une chose ce matin, elle est peut-être là déjà. Il y en aura d'autres encore, mais il y a quelque chose d'essentiel là que Jésus nous apprend au travers d'une question. À quoi bon grandir ? À quoi sert-il de se développer ? Pourquoi ? Et Jésus nous donne donc là une clé de l'existence humaine. Il nous faut grandir, il nous faut nous développer, parce qu'il y a un intérêt à cela. Il y a une raison à cela. Et une raison qui n'est pas si évidente que cela, a priori. Parce que quelle que soit l'insignifiance, pas facile à dire, l'insignifiance de la semence première, même cette toute petite graine de moutarde, aussi petite soit-il, aussi faible soit-elle en apparence, eh bien, elle est appelée à se développer en son temps, paisiblement, en passant toutes sortes d'étapes intermédiaires qu'on peut, dans l'histoire de Jésus, voir résumées en quelques secondes, mais qui sont pourtant des temps à passer. Ce n'est pas une croissance à coup de baguette magique, vous savez, ce n'est pas comment le haricot magique là, de je ne sais plus quelle histoire là, qui pousse à toute vitesse et qui nous transporte jusqu'au ciel, non. Non, Dieu donne le temps au temps, mais cette graine est appelée à se développer pour, et là c'est la grande surprise, le grand étonnement, la grande leçon de chose, pour accueillir les oiseaux du ciel et leur donner ombrage. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire par là ? Moi je trouve ça magnifique personnellement, d'y réfléchir de cette façon-là. Alors, d'abord, appelé à grandir, c'est le premier point. Tu n'es jamais trop petit, tu n'es jamais trop faible pour pouvoir te développer. Et Dieu même nous le rappelle qu'il regarde aux choses faibles du monde et qu'il les voit déjà dans la stature dans laquelle il veut les conduire. C'est-à-dire que Dieu forme un projet pour toi, pour moi, pour nous tous. Que Dieu a un projet qui est fait d'espérance et qui intègre dans ce projet le développement, la croissance. Et ce matin, ce projet, pour cette communauté, c'est aussi qu'elle grandisse, qu'elle se développe, qu'elle puisse s'épanouir. Et c'est valable pour chacun d'entre nous. Et j'ai retrouvé une phrase que je trouve très très belle aussi. Elle est de l'un de ces considérés pères de l'Église, Grégoire de Nicée, qui aurait dit, en tout cas, il semble, que le vrai péché, c'est refuser de grandir. Moi, je trouve ça très intéressant. Et surtout que le mot péché soit intégré là dans cette phrase. Quand on sait que le péché, en fait, c'est rater la cible, rater l'objectif, rater ce qui était prévu. Et d'un point de vue spirituel, refuser de grandir, c'est rater le projet de Dieu. Se dire non, ça suffit, je suis arrivé à un niveau correct, on va se satisfaire de ça. Dire cela, c'est passer à côté du projet que Dieu a pour toi. Que ça soit dans ta vie comme à l'échelle d'une communauté. Nous sommes appelés à nous développer. Alors de plein de façons. D'ailleurs pour ce qui est de la taille, la stature humaine, il y a un moment donné où on s'arrête, même on a tendance un peu à rapetisser, paraît-il, après. Mais le développement continue quand même d'une autre façon. Il y a un projet de développement pour tous, parce que c'est la vie que Dieu a faite ainsi. Mais alors la leçon qui accompagne cela, qui est très intéressante et qui est indispensable à garder en tête, sinon on va passer à côté aussi du vrai projet de Dieu, c'est que ça n'est pas dans un but vaniteux, ça n'est pas pour dire aux autres « Regarde comment je suis beau, comment je suis grand, comment mes feuilles sont belles, comment mes branches sont costauds. » Vous savez, un peu comme le chêne avec le roseau. Non ? Non, parce qu'en fait, c'est juste pour accueillir les oiseaux du ciel. On a besoin de se développer. Juste accueillir les oiseaux du ciel et leur faire ombrage. Frères et sœurs, je crois que nos vies tout entières, nos églises, sont appelées à grandir pour accueillir encore davantage les oiseaux du ciel, qui sont en mal d'abri, de maison, de famille. Et si nous voulons pouvoir incarner nous aussi, dès aujourd'hui, en ce monde, ce royaume de Dieu, il nous faut être prêts à ce que nos branchages, nos feuilles, puissent accueillir encore et encore, toujours davantage, les oiseaux du ciel qui sont tout autour de nous. Hier, dans la formation, quand on a parlé du culte, de comment on pouvait travailler à renouveler certaines choses, etc., à un moment, je disais, parce que c'est quelque chose qui est très fort dans mon cœur, qu'il me semble, en tout cas, c'est mon opinion. Je ne vous demande même pas forcément de la partager, mais peut-être juste de l'entendre. C'est que je crois que au fil des ans, au fil des siècles, peut-être que l'Église a finalement un peu oublié le début de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Et que finalement, nous avons plus construit des barrières, des barricades, et que nous avons oublié que le sens premier de la venue de Jésus sur cette terre, et on est dans le premier dimanche de l'Avent, on entre dans ce souvenir qu'à un moment donné, Dieu a fait ce choix de venir nous retrouver sur cette terre en Jésus-Christ. C'est parce qu'il a tant aimé le monde. Et que nous avons besoin, nous aussi, de réapprendre à aimer ce monde. Pas forcément toutes les pratiques de ce monde, je vous l'accorde. L'objectif n'est pas là, mais d'aimer tout ce monde qui est là autour de nous. Parce que c'est quand on aime qu'on a envie de donner ce qu'on aime. C'est à ceux qu'on aime qu'on a envie de donner ce qui nous est le plus précieux. Et si on aime ce monde, alors on va avoir une folle envie, une passion dévorante qui va se développer dans notre cœur de pouvoir partager cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Si on aime ce monde, alors on va avoir envie de se développer pour pouvoir accueillir encore et encore toujours davantage d'oiseaux du ciel qui ont besoin d'ombrage. Et cette salle est loin d'être trop grande, il me semble, pour accueillir tous ceux qui ont besoin de recevoir le message du Christ. Et nos vies ne seront jamais assez, nos cœurs ne seront jamais assez grands, assez larges, pour pouvoir accueillir et développer tout l'amour pour ces oiseaux du ciel. Et je voudrais finir avec ce dont je vous ai déjà parlé et qui revient dans la fin de l'histoire. C'est la question de la parabole, de ces comparaisons que Jésus utilise. C'est ce que j'ai fait aussi là plusieurs fois pendant cette prédication, en associant nos vies, l'Église, au royaume de Dieu notamment. On va relire ce qui est écrit. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole selon qu'il était capable de l'entendre, qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait aussi tout à ses disciples. Cette démarche du Seigneur, pour moi, elle est fondamentale à plusieurs titres et j'aimerais donc finir avec cela. Je parlais du cinéma tout à l'heure, en évoquant cela comme des paraboles pour notre monde. Eh bien, les paraboles de Jésus avaient vraiment des similitudes très fortes avec ses films contemporains. Des histoires dramatiques, souvent, enracinées dans l'expérience quotidienne, qui vont être des moyens vraiment efficaces de pouvoir communiquer avec son public. Les paraboles vont raconter des histoires qui sont tirées de la vie quotidienne et puis qui captent l'attention des auditeurs en se concentrant notamment sur ce que l'on ne voit pas ordinairement. Les paraboles se donnent même le luxe de faire côtoyer le réalisme, le symbolisme et l'extravagance. On a le droit dans une histoire. On a le droit de dire des choses même qui n'existent pas véritablement, mais qui peuvent s'intégrer dans le réel. Et c'est ce que Jésus fait souvent dans ses paraboles. Elles vont permettre de s'impliquer personnellement, activement au sein de l'histoire, parce qu'il y a toujours une ouverture qui est présente, que ce soit dans le récit même, qui peut être une sorte de miroir d'une réalité personnelle, ou par une interprétation libre qui est offerte et que Jésus offre dans ses histoires qu'il raconte. Et ainsi, de cette façon, les paraboles de Jésus proposent au public un nouveau regard sur la vie, une nouvelle façon de pouvoir regarder le monde et sa propre vie. Dans les paraboles, il y a souvent, même quand je parlais d'extravagance, vraiment quelque chose qui va à l'encontre du normal, comme on l'a souvent dans un film, pour déclencher un intérêt particulier, pour créer une situation qui accroche le spectateur. Si vous reprenez les histoires de Jésus, alors celle-là pas particulièrement puisqu'elle était axée dans une autre direction, mais un grand nombre de paraboles, si vous y réfléchissez plus concrètement, vous allez vous rendre compte qu'il y a un truc qui ne colle pas par rapport à la réalité. Ça ne se passe pas comme ça, normalement. Mais Jésus peut se permettre d'introduire au milieu de l'histoire un truc qui est en plus et qui va d'un seul coup capter l'attention de l'auditeur. Parce qu'avec Jésus, tout est possible. Et avec les paraboles, tout est possible. Alors si je vous dis ça, vous allez me dire, pourquoi par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer ? Parce que finalement, dans cette mission qui est la nôtre de pouvoir accueillir les oiseaux du ciel, il y a aussi besoin de pouvoir être entendu par ces oiseaux, d'être compris par ces oiseaux, d'être compris par notre société, plus simplement, vous comprenez l'image, par nos contemporains, d'être audible. Parce que finalement, parfois, le problème ne se situe pas tant au niveau du message qui n'est pas accepté, mais simplement qui n'est pas entendu, qui ne peut pas être entendu parce que tellement loin et différent de celui pratiqué par ceux qui sont autour de nous. Et parfois, Jésus se donne le luxe de pouvoir aller plus loin et de raconter les détails, comme il nous est dit dans le texte qu'on vient de lire. Mais ça, il le fait avec ses disciples. Et des fois, je dirais en interne, il faut aussi aller plus loin et puis pousser le bouchon un peu plus loin pour comprendre certaines choses. Mais globalement, nous avons besoin d'être entendus davantage par notre monde et de devenir, je dirais, des paraboles vivantes. Je voudrais vous lire ce qu'une théologienne américaine a écrit sur le sujet. Elle dit « Si la théologie devient trop abstraite, conceptuelle, systématique, elle sépare alors la pensée de la vie, la foi de la pratique, les mots de leur mode de réalisation. Notre discours théologique doit être ordinaire, contemporain, imagé, comme il l'est dans les paraboles. Dans la tradition de la parabole, les gens ne sont pas appelés à être religieux, ils ne sont pas sortis du monde, mais plutôt la transcendance vient s'immiscer dans la réalité ordinaire et vient la perturber. C'est exactement ce que Dieu va choisir de faire en venant nous rejoindre au travers de Jésus, son Fils. Ce que nous allons encore célébrer à Noël, une période choisie, de façon là aussi métaphorique, comme vous le voulez, enfin voilà, c'est une comparaison qui est faite à un moment donné de l'histoire, d'un seul coup, choisir de se rappeler que Dieu a décidé de venir rejoindre l'humanité, l'homme, sur son terrain. Non pas en restant là-haut à nous regarder de loin, mais en venant sur notre propre terrain. Comme Jésus va s'agenouiller, se mettre dans la poussière de cette femme qu'on a projetée là, à côté de lui, et qu'on veut lapider. Jésus va se mettre sur son terrain, là aussi. Dieu vient nous rencontrer. Et la parabole, c'est exactement cela aussi. Elle vient nous retrouver et souvent nous perturber là où nous sommes. Alors je voudrais finir avec cette image et vous inviter peut-être à ce que dans cette mission de devenir missionnaire que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire ces porteurs de cette bonne nouvelle partout où le Seigneur nous place, que nous puissions ressembler à cela. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. Frères et sœurs, je crois que c'est ça, être missionnaire aujourd'hui encore, que ce soit ici, que ce soit à Madagascar, au Cameroun, en Thaïlande, à Biscarrosse pour un Brésilien, ou pour chacun d'entre nous là où nous sommes. Être des lettres de Christ et pouvoir aimer ce monde, avoir ce désir de se développer pour accueillir encore et toujours davantage les oiseaux du ciel, en faisant confiance, mais aussi en s'impliquant. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.